Radio Okapi.
Justice à la une, avec la condamnation de 3 officiers des FARDC à la peine de mort au Nord Kivu, 2 commandants Wazalendo et Kopeu de 20 ans de prison, ainsi notamment pour désertion et recrutement illégal des militaires. Le verdict du tribunal militaire de Beni est tombé vendredi. Ebola à la base de la hausse du prix du petit bétail au Nord Kivu. Cela est dû notamment aux restrictions sanitaires imposées vers les zones de ravitaillement affectées par la maladie. Les commerçants plaident pour des mesures d'accompagnement. Comme invité, le directeur de l'école Espérance, seule école spécialisée dans l'encadrement des enfants sourds et malentendants à Matadi. En cette période d'inscription, il appelle les parents à ne pas garder leurs enfants à la maison. Madame, Monsieur, bonjour. Nous commençons au Nord Kivu. Le tribunal militaire de garnison de Beni a condamné à la peine capitale 3 officiers des FARDC pour désertion et violation des consignes. 2 hommes se présentant comme des commandants Wazalendo en eux et coupés de 20 ans de prison pour avoir notamment recruté illégalement des militaires et diffusé de fausses informations. Le verdict est tombé vendredi soir à l'issue d'un procès en flagrance. Des détails avec Martial Papimukeba.
Les 3 militaires condamnés appartiennent à la 21e brigade des défenses principales des FARDC. Le tribunal militaire de garnison de Butembo-Lubero les a reconnus coupables du viol collectif d'une femme de 28 ans dans le village de Kimbulu en territoire de Lubero. Les faits remontent dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Selon la justice, la victime regagnait son domicile après son travail lorsqu'elle a été agressée. Un premier militaire a été arrêté à la suite de la dénonciation de la victime. Lors de l'audience en flagrance, ces déclarations ont permis d'identifier puis d'arrêter des autres militaires poursuivis comme co-auteurs du viol. Le tribunal a également infligé aux condamnés une amende de 250 000 francs congolais chacun pour frais de justice ainsi que le paiement solidaire de 10 000 dollars américains des dommages et intérêts à la victime. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
En Ituri, ce rappel de la société civile Force au Vivre du territoire de Mambasa, elle demande une fois de plus aux autorités d'agir face à la dégradation des conditions de vie de la population. Dans un rapport de plaidoyer récemment transmis au gouverneur militaire de l'Ituri, la société civile décrit une situation préoccupante, situation marquée par l'insécurité persistante, les difficultés sanitaires, le manque d'eau potable et le mauvais état des infrastructures. Le point avec Jean-Claude Lequidilé.
Sur le plan sécuritaire, l'organisation affirme que les attaques attribuées aux rebelles des ADF continuent d'entraîner des déplacements de population, une baisse de la production agricole et une aggravation de l'insécurité alimentaire. Elle dénonce également des allégations de tracasserie et de perceptions illégales imposées aux habitants par certains groupes se réclamant des Wazalendo dans plusieurs localités de la chefferie de Babila Babombi. Sur le plan sanitaire, la société civile s'inquiète de la recrudescence des cas de la lèpre dans la zone de santé de Niani et des difficultés rencontrées dans la riposte contre Ebola dans les zones de santé de Mambasa et de Niania. Elle pointe également la pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de Mambasa Centre, la dégradation de la route nationale numéro 4, ainsi que l'effondrement du pont Ituri 2 qui perturbe les échanges commerciaux, l'accès aux soins et les interventions humanitaires. Elle recommande aux autorités et à leurs partenaires d'intervenir en urgence afin de répondre aux multiples défis auxquels fait face le territoire de Mambasa. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Parlons de cet autre constat. Au Nord Kivu, la maladie à virus Ebola ne provoque pas que des morts, elle impacte aussi l'économie locale. Dans la ville de Beni, le prix du petit bétail a presque triplé sur des marchés. C'est à la suite des restrictions sanitaires imposées vers des zones de ravitaillement affectées par la maladie. Les vendeurs parlent aussi de la fermeture de la frontière RDC-Ouganda. Ils plaident en faveur des mesures d'accompagnement en vue de soutenir la filière. Aboubakar Baraka Kasongo, vétérinaire responsable du marché au bétail de Beni, s'est confié à ce sujet à Marco Marufimbo.
Le prix vient de hausser. La cause, c'est la maladie à Ebola, mais même aussi les passages des non-fournisseurs. Ils sont en train de passer dans des endroits qui sont tellement risqués. Mais même aussi, par rapport aussi à la déclaration, c'est la raison pour laquelle aussi le prix vient de hausser. Non, passage libre de l'Ouganda, parce que c'est là où nous allons quand même les bêtes. Ce que nous pouvons demander aux autorités, Nous avons besoin de leur soutenance pour que nous puissions avoir un passage libre, pour que nous puissions avoir des animaux sans problème et le prix aussi sera équilibré. Parce que le prix d'aujourd'hui, la bête qu'on achetait à $60, aujourd'hui c'est 90. La bête qu'on achetait à 90, c'est 120. La bête qu'on achetait 120, c'est 170. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités de faire tout ce qui est possible pour que nous puissions avoir le passage libre au niveau de l'Ouganda, pour que nous puissions aussi rabaisser aussi les prix.
Aboubakar Baraka Kasongo affirme aussi que depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola, le nombre de têtes de petit bétail a atteint difficilement 1000 par semaine contre 5000 auparavant. Et à propos d'Ebola au Nord Kivu, la sensibilisation se poursuit. Vendredi, ce sont des responsables de corporations ainsi que des associations des chauffeurs et taximens qui en ont bénéficié dans la ville de Beni. Cette activité a porté sur le respect des mesures barrières contre Ebola. Le secteur de transport, vous le savez, est l'un des vecteurs de transmission du virus à cause des mouvements permanents des populations. Marc Marofimbo nous donne les grands moments de cette activité de vendredi.
Une centaine de responsables des différentes associations et corporations de chauffeurs et taximens ont pris part à cette sensibilisation. Initiée par la division des transports, voies de communication et des enclavements, l'activité visait à rappeler aux acteurs du transport les mesures sanitaires édictées par les autorités provinciales et les services de santé afin de limiter la propagation de la maladie à virus Ebola. Les participants ont été sensibilisés à leur rôle dans la prévention de cette épidémie, notamment à travers le respect des mesures barrières et la vigilance face aux voyageurs en provenance des zones affectées. Un participant a ainsi déclaré.
Nous allons sensibiliser nos membres, chaque président d'association avec ses membres, pour que cette maladie puisse être éradiquée à partir des taximens de la ville de Beni.
Au cours de cette rencontre, le chef de la division des transports, voies et communications et des enclavements est revenu sur les principales consignes à observer dans le secteur du transport en cette période épidémiologique. Patrick Banyanga.
Nous avons demandé qu'on respecte le nombre de passagers en bord d'une voiture, qu'on appelle communément les Léo, et aussi la moto, et aussi mettre des gels dans les différents véhicules ou les personnes qu'on transporte.
Un accent particulier a été mis sur les conducteurs desservant les axes Beni-Bunia, Beni-Kassindi et Beni-Butembo, considérés comme étant parmi les plus sensibles dans le contexte actuel de la riposte contre Ebola. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Plus question de naviguer à l'aveugle sur la voie Lualaba, Ubundu, Kindu. Pour preuve, la ville de Kindu a reçu ce week-end un nouveau bateau baliseur. Sa mission, installer, entretenir et relever des dispositifs de signalisation sur cette voie navigable et ce, après plus de 40 ans. Le manque de ce navire obligeait la RVF, la régie des voies fluviales, à recourir à des unités des privés pour pouvoir aménager les routes de navigation, reconnaissent les experts. Du coup, la mise en service de ce bateau baliseur constitue un ouf de soulagement et donne une garantie aux usagers du fleuve de voyager en toute sécurité. Les travaux de construction de ce baliseur ont coûté plus d'un million de dollars américains investis par le gouvernement congolais. Le ministre national du transport et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a d'ailleurs assisté à son inauguration. Florence Kizalunga nous revient avec d'autres précisions.
Mis à part son rôle d'installer et d'entretenir des dispositifs de signalisation sur les routes de navigation, l'acquisition de ces bateaux baliseurs est un atout majeur pour le désenclavement et le développement socio-économique du Maniement. Les directeurs techniques de la RVF RDC appellent à un bon usage. Tumbu Cédric Luc.
Ce bateau qui vient d'être inauguré a un rôle majeur, n'est-ce pas, dans l'aménagement et l'entretien des routes de navigation du premier secteur du Lualaba. Il va pouvoir désenclaver la province parce que ça fait plus de 40 ans que nous n'avons plus, en tant que RVF, eu une unité comme de la trempe de ces baliseurs. Les dernières campagnes de balisage qui ont été réalisées par la RVF, ça date de 2017. Donc vous comprenez que avec cet avènement, au moins le premier secteur du Lualaba va être doté du balisage. Par conséquent, les usagers du fleuve, que ce soit les commerçants, que ce soit les populations qui utilisent cette voie pour pouvoir se déplacer, vont pouvoir naviguer en toute sécurité.
Déjà, une randonnée a été organisée par l'équipe de la RVF sur place à Kindu dans le cadre d'un essai technique. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Merci Florence. Des écoles sans bancs, des centres de santé sans équipement, des chantiers à l'arrêt depuis 2 ans. C'est le constat amer dressé dans plusieurs infrastructures construites dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires au Kasaï central. La société civile du peuple en province qui fait ce constat tire la sonnette d'alarme. Elle appelle la première ministre à débloquer des fonds nécessaires pour achever ses ouvrages. Qu'en est-il, André Katendengalamouloumé?
Dans une lettre de plaidoyer datée du 10 juillet adressée à Judith Suminoa, cette plateforme citoyenne salue les efforts du gouvernement en matière d'infrastructure. Mais elle dénonce aussi de nombreuses insuffisances. Selon la société civile du peuple Kasaï central, plusieurs bâtiments administratifs, écoles et centres de santé construits dans les territoires de Luisa, Kazumba, Demba, Dibaya et Dimbelengi sont inachevés. Les travaux, avancés entre 60 et 75%, sont à l'arrêt depuis 2 ans par manque de financement. L'organisation affirme également que plusieurs écoles déjà construites ne disposent ni des bancs, ni des forages, ni d'autres équipements essentiels. Même constat dans les centres de santé qui manquent de matériel médicaux, des médicaments et des mobiliers. Elle demande à la première ministre de s'impliquer pour que les fonds nécessaires soient débloqués afin d'achever ces infrastructures. Kananga, André Katendengalamouloumé, Radio Kapi.
Par contre, dans le Haut-Katanga, le projet Kasomeno-Kasenga-Tchaloué, qui vise à relier la RDC à la Zambie, enregistre lui des avancées majeures. C'est grâce à l'accélération des travaux du pont Orbané, ainsi que de la route et du poste frontalier à Réunique. Selon des sources proches de l'Agence congolaise des grands travaux, des éléments métalliques du pont arrivés de la Chine sont en cours d'assemblage sur place. La route reçoit par endroits la couche de roulement, tandis que les 37 bâtiments du poste frontalier à Réunique sont en construction. Paula Munanga nous apporte plus de détails.
En ce mois de juillet 2026, le projet Kasomeno Kasenga Tchaloué affiche des avancées notables sur ses 3 composantes principales, les ponts, la route et les postes frontaliers à l'arrêt unique. Le pont Obané, d'une portée de 362 mètres et d'une largeur de près de 20 mètres dont les 4 assises ont été exécutées avec succès, va bientôt recevoir sa structure métallique. Fabriqué en Chine, les différentes composantes, poutres, traverses et tabliers sont déjà sur le site à Tchaloué et leur assemblage est en cours. La deuxième composante, la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué longue de 93 km, est également en travaux. Quant à la troisième composante, les postes frontaliers à l'arrêt unique, il comprend 37 bâtiments dont 9 sont déjà au stade de fondation. Ces infrastructures abriteront les services frontaliers des deux pays et disposeront d'une aire de santé de 25 120 m². Dans le cadre de la gestion environnementale et sociale, le projet encadre également les riverains dans les domaines agro-pastoraux. Pastoral, Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Et dans un tout autre domaine, les jeunes de plusieurs quartiers de Matadi au Congo central dénoncent la disparition progressive des espaces sportifs, notamment des terrains de football. Ils affirment que ces lieux qui leur permettaient de pratiquer le sport, se divertir et s'occuper sainement sont peu à peu remplacés par des bars et d'autres activités commerciales. Ils appellent les autorités à créer et réhabiliter des terrains de proximité afin de mieux encadrer la jeunesse, particulièrement pendant les vacances scolaire, une période où l'oisiveté peut favoriser de mauvaises fréquentations et d'autres dérives. Élise Kavira nous en dit plus.
Alors que les vacances scolaires offrent davantage de temps libre aux jeunes, la disparition progressive des terrains de sport inquiète la jeunesse des Matadi. Alvin Lutandila, jeune habitant du quartier Kinkanda, témoigne.
Prenons seulement l'exemple de la commune des Matadi, où l'on trouvait plusieurs terrains, notamment Tsadisi, Mabeki, OIBK, 3 maisons, RTNC. Pour ne citer que cela, aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus aucun terrain de football. Pour éradiquer le phénomène des Kuluna, il ne suffit pas de construire des prisons. Il faut également investir dans les sports, créer des compétitions pour les jeunes.
Plus loin, au terrain du camp Rijaf, nous rencontrons Dekriko Kinkela, jeune entraîneur d'une sélection des jeunes passionnés de football venus des différents quartiers. Selon lui, ces rencontres aident les jeunes à canaliser leur énergie de manière positive.
Nous nous rencontrons chaque samedi matin pour jouer au football dans un cadre de loisirs. Ce moment nous permet d'échanger les idées et de nous compléter mutuellement.
Pour les jeunes des Matadi, les terrains des sports sont bien plus que des lieux de loisirs. Ce sont des espaces de rencontres, d'apprentissage et d'encadrement. Ils souhaitent donc que les autorités prennent des mesures concrètes pour préserver et développer ces aires des sports. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La crise iranienne connaît une nouvelle phase d'escalade dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont lancé ce matin une série de frappes contre des positions iraniennes. C'est une réponse à une attaque ayant visé un navire commercial dans cette voie maritime. Le commandement militaire américain au Moyen-Orient indique que les cibles visées comprenaient notamment des sites de lancement des missiles et des drones, des dépôts de munitions, des infrastructures de communication ainsi que plusieurs installations militaires.
L'invité.
Les vacances scolaires ont commencé et plusieurs écoles accueillent déjà les parents pour les inscriptions de la prochaine année scolaire. À Matadi, l'école Espérance lance un appel aux parents, seule école spécialisée dans l'encadrement des enfants sourds et malentendants dans la ville. Elle rappelle que l'enseignement est gratuit au niveau primaire grâce à la prise en charge de l'État congolais. Le directeur de l'établissement, Giscard Massoumi, encourage les parents à ne pas garder leurs enfants à la maison. Il rappelle que l'éducation est un droit pour chaque enfant. Giscard Massoumi s'entretient avec Elise Kavira.
Bonjour, Monsieur Giscard Massoumi.
Bonjour, Madame, bonjour.
Quelle est la particularité de l'enseignement proposé à l'école Espérance?
Bon, écoutez, Madame, la particularité, c'est que c'est un enseignement spécial. Dès lors que les droits congolais disent que tout enfant a droit à l'éducation, ce sont des enfants sourds, mais qui ne peuvent pas être abandonnés. Donc, ils doivent être scolarisés.
Depuis combien d'années l'école Espérance est-elle implantée à Matadi?
L'école ici que voici, c'est une nouvelle école. Elle a été créée en 2017. Mais avant que celle-ci ne soit créée, il y a eu une autre école qui existait à côté ici. Mais les autorités de la place avaient jugé bon plutôt de pouvoir construire cette école, d'autant plus que l'école qui existait n'avait pas de bonnes conditions adéquates pour pouvoir encadrer ces enfants-là.
L'école est-elle exclusivement réservée aux enfants sourds et malentendants?
Non, madame, pas uniquement pour ce genre d'enfants, parce que ici, chez nous, nous prônons l'éducation inclusive. Cette éducation inclusive a pour objectif de pouvoir intégrer ces enfants. Donc, les enfants entendants, entre guillemets normaux, au sein de ces enfants sourds, dans les soucis d'abord. Un, nous sommes entendants, nous qui encadrons ces enfants. Mais demain ou après-demain, nous ne serons plus là. Et donc, nous nous sommes dit, nous devons préparer une relève de ces enfants-là qui parlent comme nous autres encadrés. Comme ça, demain ou après-demain, lorsque nous serons partis, ces enfants prendront la relève. Le second, c'est que ces enfants que nous intégrons au sein de ces enfants sourds ont une responsabilité de pouvoir accompagner leurs sœurs, leurs frères qui sont déjà sourds dans leur famille. Quand ils habitent dans la même famille, là, ils ont cette facilité de communiquer et de pouvoir véhiculer les messages, par exemple, aux parents, à la population qui nous entoure.
Au regard du nombre d'inscriptions, peut-on dire que les parents d'enfants sourds à Matadi sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de leur éducation?
Madame, écoutez, c'est une bonne question à laquelle je voudrais réagir un peu en longueur. C'est que l'école ici, lorsqu'elle a été créée, c'est une initiative venue de l'Église catholique par le biais d'une branche appelée Caritas. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'il y a toujours des déperditions de ces enfants. Et c'est ce qui nous inquiète, nous, en tant que responsables, parce que l'école que voici, madame, est déjà une école publique prise en charge par l'État congolais. Dès lors qu'il y a déjà la gratuité, nous pensons que lorsqu'un enfant débute l'année scolaire, il doit poursuivre jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de l'année scolaire. Alors, lorsque cette idée est venue, les responsables avaient commencé d'abord à faire une sensibilisation. Faire comprendre aux parents d'abord que, un, tout enfant a droit à l'éducation. Peu importe la catégorie d'enfant. Au premier instant, ça a été difficile à être compris. Mais au fil des temps, il y a des parents qui continuent jusqu'à aujourd'hui de nous envoyer ces enfants parce qu'ils ont compris que tout enfant a droit à l'éducation.
L'inclusion des enfants sourds est souvent évoquée. Mais dans la province, quelles mesures encouragent les parents à scolariser leurs enfants? Après leurs études, quelles perspectives s'offrent à eux?
Merci madame, c'est encore pertinent. Donc au niveau local ici, d'abord pour les autorités de l'église qui ont pensé à ériger cette école, ils se sont dit nous n'allons pas nous arrêter à construire l'école ou à faire scolariser les enfants. Mais à côté d'eux, nous pouvons créer de sources de revenus. Par exemple, on a créé une ferme à côté pour que lorsque ces enfants, par exemple, terminent l'école, ils peuvent avoir des petits emplois pour qu'ils aient la facilité peut-être de pouvoir survivre, s'acheter quoi que ce soit. Et en dehors de ça, il y a des démarches qui sont en cours pour pouvoir créer, par exemple, une crèrerie. Et lorsque tous ces petits emplois sont créés, nous allons privilégier ces enfants qui terminent au sein de cette école ici, pour qu'ils aient un peu de l'emploi. Mais hormis cela, Il y a de ces enfants qui terminent chez nous, par exemple, il y a de ceux-là 2 à 3 ans, ils ont fini, ils ont eu leur diplôme chez nous. Les uns sont à l'Institut supérieur, par exemple, à l'ISC. Mais là, ils émergent. Et dans les soucis que 2 mois après, ils trouvent de l'emploi ailleurs, comme toute autre personne.
Monsieur Giscard, quel message avez-vous adressé aux auditeurs, aux parents d'enfants sourds, aux autorités provinciales et même nationales, et pourquoi pas aux partenaires qui accompagnent les bonnes initiatives?
Je l'ai dit en amont que l'école primaire est gratuite. C'est ce que prend l'État congolais. Donc ici, je voudrais solliciter l'indulgence de la population matadienne entière, que déjà qu'ils le sachent, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a déjà une école appropriée pour cette catégorie de personnes. Ça, c'est un. Ici aussi, je voudrais lancer un appel particulier du côté de l'État congolais. Parce que l'enseignement spécial a toujours travaillé avec des partenaires. C'est vrai, il a pris l'école en charge. Et dans l'organisation de l'enseignement spécial, il y a beaucoup de services qui doivent être, par exemple, si je peux citer, des services, par exemple, de logopédie, d'oral, et les services de kiné. C'est toujours dans le souci d'accompagner ces enfants.
Monsieur Giscard Massumi, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Giscard Massumi, directeur de l'école Espérance à Matadi. Et c'est ce qui clôture ce journal. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté avec l'apport de Jean-Désiré Kanyama et Lievin Binga à la coordination et supervision du Lounou Nyangasa assurer la partie technique. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Bon après-midi.